Donc on va lire dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, et à partir du verset 14. Avant de lire, je vais quand même vous donner le contexte de la lettre aux Hébreux, pour que déjà vous soyez un peu dans le bain avant de lire le passage. Les destinataires de cette lettre, alors déjà l'auteur de la lettre, on ne le connaît pas. Alors, il y a beaucoup de propositions qui ont été formulées, mais on ne connaît pas l'auteur de cette lettre aux Hébreux. Par contre, et les destinataires, on ne les connaît pas non plus. Mais quand on lit toute la lettre, on peut s'apercevoir que ce sont des chrétiens qui vivent l'Église, on va dire, comme un fardeau. Vous remarquerez l'allusion au titre de la journée bonus. C'est des chrétiens qui souffrent d'être chrétiens. Ils sont persécutés à cause de leur foi en Jésus et ils sont tentés de renier leur foi en Jésus pour retourner probablement dans le judaïsme. Pourquoi ? Parce que le judaïsme était une religion plus reconnue par les Romains, donc ça veut dire moins de persécution, et aussi c'était une religion qui jouissait d'un plus grand prestige historique et affectif, puisque si ses destinataires étaient hébreux, eh bien, c'était un peu la religion de leur enfance. Voilà, c'est là où ils ont baigné quand ils étaient petits. Donc ils sont vraiment tentés d'abandonner la foi en Jésus et de revenir dans le judaïsme. Et dans cette lettre, le leitmotiv de cette lettre, la chose qui revient assez souvent, c'est Jésus, c'est mieux. Jésus, c'est le meilleur, donc il faut rester chrétien. Voilà, je pense qu'on peut dire que si on voulait résumer la lettre, ce serait ça. Jésus, c'est le meilleur, donc il faut rester chrétien. Et donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend plein d'exemples dans l'Ancien Testament. Et donc vous allez en avoir un bel aperçu avec Hébreux 12 à partir du verset 14. Est-ce que quelqu'un veut commencer à lire donc Hébreux 12 à partir du verset 14? Joël ? Une fois que tu en as marre, tu peux t'arrêter. Quelqu'un va prendre la suite. Comment ? Il n'en a jamais marre. Ouais. Ben, j'avais une lueur d'espoir comme ça qu'il puisse s'arrêter un petit peu, mais non. Ouais, 14 à la fin. Tu peux te lever et avec une voix intelligible et forte, tu peux lire.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni prophète comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. »
Verset 22. Joël s'est arrêté. Déjà, miracle. Merci. Merci.
Et vous vous êtes rapproché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, parle mieux que celui d'Adèle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moi échappons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette parole. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. recevant un royaume inébranlable, montrons-nous reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.
Merci beaucoup. Donc vous avez donc page 4, hein, le plan. Et le premier gros titre, c'est qu'il y a des exemples et des mises en garde dans ce passage. Et j'aimerais que vous me disiez quels sont les exemples tirés de l'Ancien Testament qui se trouvent dans ce passage. Oui.
Ésaü.
Ok. Ah, c'est marqué, je suis bête. J'ai oublié le plan que j'ai envoyé. C'était pas une vanne, hein, c'était vraiment une perte de mémoire. D'accord, bon, je vais arrêter de vous demander des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est mon plan, hein, en même temps. Quand il était vraiment très intelligent comme plan. Donc, le premier exemple qui est tiré, c'est Ésaü. Ésaü, si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, Ésaü, c'était le frère de
Jacob,
merci. Non, Ésaü était donc l'aîné de la fratrie, c'est lui qui aurait dû hériter du droit d'aînesse. Mais il a méprisé son droit d'aînesse, il a méprisé son héritage. Et à cause d'un moment de stupidité, hein, on va dire, il avait très faim et il a monnayé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Eh bien, il a tout perdu. Il a perdu cet héritage, il a perdu son droit d'aînesse. Et il n'a pas pu revenir en arrière. Et non seulement il n'a pas pu lui retrouver son droit d'aînesse, mais toute sa descendance à lui. A été entraîné hein, dans cette exclusion du droit d'aînesse. Hein. C'est la descendance de Jacob qui va être bénie, qui va recevoir la bénédiction. C'est pas sa descendance à lui. Quand l'auteur de l'épître cite cet exemple d'Ésaü, il dit finalement à ces chrétiens qui sont tentés d'abandonner la foi, l'avenir s'acquiert aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous construisez votre avenir, et donc tenez bon. L'exhortation qui accompagne l'exemple d'Ésaü, donc là c'est les versets 14 à 17, l'exhortation qui et la mise en garde qui accompagne cet exemple d'Ésaü, c'est finalement faites des efforts pour vivre une vie digne de Jésus. Ne passez pas à côté de la grâce qui vous est destinée. Parce que si vous passez à côté de cette grâce, eh bien, les conséquences vont être très très graves. J'attire votre attention sur le verset 15. Sur le verset 15, parce qu'on a l'impression que ce passage débute avec une sorte d'exhortation à la piété ou à un comportement fraternel bon. Hein. Et au verset 15, dit à ces Hébreux, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause de troubles en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » On pense que ce verset est une allusion au Deutéronome, au chapitre 29, verset 18. Écoutez, donc Deutéronome 29, 18. Donc c'est Moïse qui parle aux Hébreux qui vont entrer en terre promise. « Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel. Notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. » Une vraie exhortation à ne pas abandonner son espérance, mais en plus à ne pas être un mauvais exemple pour ceux qui sont autour. Et on peut penser que chez les chrétiens, qui sont les destinataires de cette lettre, eh bien, il y a peut-être une hémorragie de chrétiens qui retournaient dans le généisme, qui se disaient, bah, finalement, suivre Christ, c'est trop dur. C'est trop dur, donc du coup, on retourne. Et en voyant un pote quitter l'église et retourner dans le judaïsme, eh bien, on est tenté d'y aller. Hein. Exactement, finalement, comme les Hébreux, avant d'entrer en terre promise, qui pouvaient, finalement, au lieu de conquérir la terre promise, bah, plutôt adopter les dieux cananéens, et puis créer aussi une hémorragie d'infidélité. Et vraiment, la mise en garde, faire des efforts pour vivre une vie digne de Jésus. Être des chrétiens, des vrais, et qui tiennent bon qui se rendent compte de la merveilleuse grâce qui est pour eux. Le deuxième exemple qui est tiré de l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'exemple des Hébreux. Et donc là, je ne vous fais pas l'affront de vous demander à quel épisode on fait référence. En fait, on fait référence après la sortie d'Égypte, quand Dieu s'est révélé aux Hébreux. La logique, c'est que les Hébreux ont vécu des moments extraordinaires. Mais ces moments extraordinaires, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les versets 18 à 21, ces moments extraordinaires les ont plongés dans des choses négatives. Ils ont vécu des grandes manifestations de Dieu, ce qu'on appelle des théophanies, et j'imagine que les destinataires de la lettre pouvaient se dire « Ah, ils ont eu du bol quand même d'entendre Dieu, de voir des manifestations merveilleuses de Dieu. » Et là, on a l'auteur qui décrit ces manifestations de manière assez négative. Parce que ces moments extraordinaires, ces manifestations extraordinaires, ont plongé les Hébreux dans la crainte. Ils n'ont pas pu pleinement les vivre, puisqu'ils n'ont pas pu toucher, ils n'ont pas pu approcher Dieu sous peine de mort. Et même, en fait, les manifestations de Dieu étaient tellement horribles que ça a même horrifié Moïse, qui a vraiment eu peur d'y passer. Parce que vous savez, trop côtoyer Dieu qui est trois fois saint, c'est prendre le risque de mourir. Il y a un gouffre entre le péché et Dieu, et les Hébreux l'ont vraiment compris en sortant d'Égypte. Et donc l'auteur oppose ce qu'ont vécu les Hébreux, donc des versets 18 à 21, qui était effrayant, mais du coup ils n'ont pas pu en profiter, à ce que vivent les chrétiens, versets 22 et 23. Les chrétiens, au contraire, se sont approchés d'une autre montagne. Ce n'est pas le mont Horeb, c'est la montagne de la vraie montagne de Dieu, hein. C'est la promesse pour les chrétiens. Ils se sont approchés d'un autre peuple, les saints, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont bien révéré Dieu et qui sont sauvés au dernier jour. Ils se sont approchés d'un autre médiateur qui n'est plus Moïse, mais qui est Jésus. Et surtout, ils se sont approchés du même Dieu que les Hébreux. Autrement dit, l'auteur dit à ses destinataires, vous avez du bol de vivre la période que vous vivez. Vous êtes du bon côté de la grâce, vous êtes dans la bonne alliance. Ils n'ont pas eu l'expérience sensorielle, mais ils sont dans une meilleure situation que les Hébreux. Et c'est ça, à mon avis, le grand message de ce deuxième exemple. Et du coup, je pense que la mise en garde, l'exhortation de la part de l'auteur, c'est de ne pas faire comme les Hébreux. L'important, ce n'est pas l'expérience extraordinaire, mais c'est d'écouter Dieu et de ne pas se détourner de lui. Parce que finalement, ces Hébreux qui ont vécu une expérience extraordinaire autour de l'Horeb, qui ont entendu la voix de Dieu, ils ont cru que c'était le tonnerre tellement c'était impressionnant, eh bien, ils ont vécu des moments extraordinaires. Mais vous savez, il a fallu attendre quelques jours pour que, pof, un veau d'or apparaisse. Ils ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu, mais ils se sont très vite détournés de lui. Et donc, il ne faut pas faire comme eux. Il ne faut pas faire comme eux, il faut l'écouter. Cette église qui est dans la tourmente, qui est dans la persécution, il faut qu'elle écoute le Seigneur. C'est la bonne manière de vivre de l'Église. Rester fermement attaché aux paroles de Jésus. Le troisième exemple, c'est le 0,5e exemple, puisque j'ai dit qu'il y avait trois exemples et demi. C'est un tout petit exemple. C'est l'exemple d'Abel au verset 24. C'est pas beaucoup développé, hein, mais l'auteur nous dit que le sang d'Abel, que le sang de Jésus, que Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Alors, c'est une comparaison avec le sang d'Abel, et c'est une comparaison qui est peut-être pas forcément facile à deviner, mais donc je vais vous la dire. Le sang d'Abel, a provoqué une malédiction pour son frère qui l'a tué. Caïn a tué Abel et le sang d'Abel a maudit Caïn. Le sang de Jésus, lui, il a amené la bénédiction sur ses frères qui l'ont tué. Il a été crucifié, Jésus, il a été tué par ses frères, mais son sang a amené la bénédiction sur eux. Enfin, surtout sur ceux qui ont mis leur foi en lui. Hein. Ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, eux, par contre, ont plus de problèmes. Et donc voilà, encore une fois, comparaison pour dire que Jésus, c'est vraiment mieux, hein. c'est vraiment le meilleur. Il faut mettre sa confiance dans son sacrifice, dans son sang, finalement, pour avoir la bénédiction. Quatrième exemple, c'est l'exemple du jour du Seigneur. À partir du verset 26, quand je dis le jour du Seigneur, il n'y a pas marqué le jour du Seigneur, mais par exemple le verset 26 est très intéressant, il rappelle, si vous êtes coutumier des petits prophètes, j'imagine que beaucoup d'entre vous lisent régulièrement les petits prophètes pour s'endormir, pour... Non ? Non ? D'accord. Dès que vous lisez le verset 26, « Celui dont la voix fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel !» Quand vous entendez ce genre de choses, eh bien, vous pensez peut-être à certains passages. Par exemple, Agé, au chapitre 2, verset 6, « Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. » Bon, c'est presque un copier-coller, hein, c'est une citation. Mais Agé reprend sûrement le prophète Joël. Le prophète Joël, qui est le grand théoricien du jour du Seigneur. Et le prophète Joël, au chapitre 4, à partir du verset 16, décrit l'Éternel en disant « Il rugit l'Éternel à partir de Sion et de Jérusalem. Il donne de la voix et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Il est une retraite pour les Israélites. » Petit à petit, avec les prophètes, on nous décrit une terre et un ciel. Je fais comme si j'étais américain. Une terre et un ciel qui vont finir par être ébranlés. Le Seigneur va tout recréer et va tout bouleverser en voyant que les humains font vraiment n'importe quoi. Et premièrement, les Judéens, hein, les personnes de son peuple. Et donc, ces prophètes disent que finalement, il va y avoir une autre réalité où Dieu va recréer les choses, hein, va tout ébranler, va tout changer pour vraiment arranger les choses en profondeur. Et pas seulement avec juste une loi donnée par Moïse, mais va carrément changer non seulement le cœur des hommes, mais aussi va tout bouleverser. Et une vraie promesse qui est décrite donc dans les versets 26 à 29, où finalement, l'auteur dit « Ne vous arrêtez pas à cette terre-là, parce que la terre sur laquelle vous vivez va passer, mais attachez-vous plutôt à la terre qui va arriver. Attachez-vous à la nouvelle création, celle qui va arriver après le retour de Jésus. Il leur dit, donc c'est ça la mise en garde, c'est ça l'exhortation, vivez selon le royaume inébranlable, et non selon l'ancien ordre des choses. Et c'est intéressant, parce que l'ancien ordre des choses commence... dès la résurrection. Dès que Jésus a accompli ce qu'il avait à accomplir, on est dans un nouvel ordre des choses, on est dans une nouvelle alliance. Et donc, il faut vivre selon cette nouvelle alliance. Même si, comme l'a dit tout à l'heure Marion, il y a du « pas encore », mais il y a déjà du « déjà ». Il y a déjà des choses qui sont acquises. Même si, bien sûr, tout n'est pas encore acquis, il y a encore plein de promesses qui ne sont pas encore là. Mais il faut déjà s'attacher déjà à ce qu'on a, et même aux promesses qu'on n'a pas encore. Ce sont des promesses fermes. On peut vraiment être totalement sûr que tout passera et qu'au final, Jésus reviendra tout transformer, tout juger, tout passer par le feu. Et ça finit quand même, tous ces exemples finissent quand même avec le verset 29 qui nous dit que l'Éternel est un feu dévorant. L'Éternel est un feu qui consume. On rigole pas avec l'Éternel. Alors, une fois qu'on a un peu décrit le passage, il faut voir finalement les thématiques qui sont présentées. Je pense qu'on peut résumer les thématiques avec l'inconfort vécu par l'Église et en même temps le bonheur qui devrait être le bonheur de l'Église. Deux mots qui sont complètement contradictoires, qu'on ne met pas beaucoup ensemble, inconfort et bonheur, j'aimerais même dire persécution hein, et bonheur. Mais je pense que l'auteur de l'Épître les met ensemble, en tout cas les fait se côtoyer, parce que bien sûr, c'est la réalité des membres de la première Église. Ils souffrent à cause de leur foi en Jésus, mais en même temps, la foi en Jésus devrait eh bien, les faire sourire, devrait les faire rayonner de joie. Et du coup, on va parler de la persécution dans un premier temps. Et ce qu'on peut constater dans ce passage, c'est que faire partie de l'Église, c'est être exposé à la persécution, et que la persécution, ça pousse à faire un certain nombre de choses. Quatre choses exactement, et ça, je ne l'ai pas marqué, donc vous pouvez les noter si vous avez envie. La première chose que la persécution pousse à faire, c'est se relâcher. Se relâcher en se conformant au monde actuel et être un mauvais exemple par la même occasion. Être tenté de dire bah, c'est trop dur, la vie d'avant, la vie sans Jésus, elle était mieux que la vie avec Jésus. C'était plus facile. Donc je laisse tomber, je retourne à la foi juive qui n'était pas si mal que ça finalement. S'ils étaient hébreux, ils étaient déjà circoncis, donc déjà c'était pas trop douloureux de se faire circoncire. Ils s'en rappelaient plus, en tout cas, depuis le temps. Il fallait respecter un certain nombre de lois, mais bon, finalement, c'est pas trop mal d'être sauvé par les œuvres. C'est rassurant. La deuxième chose que pousse la persécution, à laquelle pousse la persécution, c'est à ne plus réfléchir et mépriser ou délaisser les choses saintes. C'est-à-dire, finalement, en français courant, hein, ne pas accorder de valeur à Jésus. Mépriser les choses saintes, hein, c'est ce qu'il dit texto au début de notre texte, hein, ne pas mépriser les choses saintes. D'ailleurs, c'est le premier verset. Dire finalement, le sacrifice de Jésus, c'est pas si important. La foi en Jésus, c'est pas si important. Et donc je l'abandonne, c'est mépriser la chose la plus sainte qui soit apparue sur cette terre. C'est le plus grand blasphème qu'on puisse accomplir. Mépriser le Fils de Dieu lui-même, mépriser son sacrifice. C'est en fait finalement ne rien comprendre à la Bible. Ils avaient que l'Ancien Testament, mais c'était la Bible. C'est ne rien comprendre à l'Ancien Testament finalement. C'est comprendre finalement encore qu'on peut se sauver soi-même. C'est un suicide spirituel. Et bien sûr, hein, quand on est persécuté, quand on souffre, on a tendance à pas réfléchir, à plus réfléchir, parce qu'on souffre, quoi. Le cerveau a du mal un peu à analyser les choses et à dire, mais si, souviens-toi, Jésus, il n'y a qu'en lui que tu peux être sauvé, voilà. Non, la persécution, il y a une sorte de fuite en avant, où on se dit, bah non, finalement, c'est trop dur, j'abandonne. Je pense que le verset 14 fait allusion à ce genre de choses, le fait de mépriser les choses saintes. La troisième chose à laquelle pousse la persécution, c'est à fantasmer sur des théophanies extraordinaires. Des théophanies, donc des manifestations de Dieu. D'ailleurs, en fait, finalement, c'est un pléonasme, hein, théophanie extraordinaire, parce qu'une théophanie est forcément extraordinaire, vu que c'est une manifestation de Dieu. Et donc, quand on souffre, on aimerait bien que Jésus, tel Zorro, vienne sur son cheval noir, parce que Zorro avait un cheval noir, mais sinon c'est un cheval blanc, et vienne nous délivrer, vienne bousiller tous les ennemis, que vraiment tout soit apaisé autour de soi en 2 secondes et demie, parce que quand même, c'est notre père, un père ne veut pas que ses enfants souffrent. Donc on se dit, allez, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, interviens, vas-y, c'est toi le plus fort quand même. Et non. Et non, il fait pas trop ça. Et je reviens à l'argumentation, à l'exemple hein, des Hébreux avec le mont Rêbe, hein, où l'auteur dit que voilà, il l'a fait, hein, sur le mont Rêbe, il s'est manifesté d'une manière, hein, mais ça n'a rien fait. Hein. Ça n'a pas du tout créé une foi extraordinaire à l'intérieur du peuple. Hein. Ça a créé un veau d'or. Non, c'est pas Dieu qui a créé le veau d'or, hein, c'est l'incrédulité du peuple du coup, qui a désobéi hein, à tout cela. Donc on a tendance à fantasmer. Et la quatrième chose à laquelle pousse la persécution, c'est à s'attarder sur ce qu'on n'a pas, sans voir ce qu'on a déjà. S'attarder sur ce qu'on n'a pas, sans voir ce qu'on a déjà. La troisième, c'est fantasmer sur des théophanies. Et donc là, je fais vraiment référence au verset 28. Hein. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable avec soumission et respect. Alors voilà, hein, il parle à des gens qui sont persécutés. Et il leur dit, soyez reconnaissants. Bizarre. Mais soyez pas reconnaissants de souffrir. Hein. Dans d'autres passages, hein, d'ailleurs, on nous dit d'être reconnaissants même parce qu'on souffre. Mais là, c'est soyez reconnaissants de ce que vous allez avoir, du royaume inébranlable qui vous attend quand vous allez mourir ou quand Jésus va revenir. Voilà. Donc, on est tenté d'être focalisé sur ce qu'on vit de manière totalement terrestre et matérialiste. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux et finalement Dieu dit aux chrétiens qui vivent mal leur foi de regarder plus haut, quoi, de regarder après leur persécution. Ça, c'est pour la persécution. Maintenant, on va voir par rapport à la foi. N'oublions pas que Hébreux 12 vient étrangement après Hébreux 11, qui parle de la foi. Faire partie de l'Église, c'est ne pas être comme tout le monde, et donc être persécuté, en tout cas ne pas avoir de confort, parce qu'on n'est pas comme tout le monde, mais c'est avoir une foi qui pousse à faire trois choses. Une foi qui pousse à être heureux avec la promesse. Vous remarquerez qu'il y a une subtile opposition entre tous mes points. Être heureux avec la promesse, se satisfaire de ce qu'on a, se satisfaire même plutôt de ce qu'on n'a pas, satisfaire de ce que Dieu nous dit que nous avons déjà en réserve. Ce qui est assez difficile. Mais c'est la foi qui fait ça. Hein. C'est vraiment, si on pense que Jésus est réellement le Fils de Dieu, qu'il a fait tout ce qu'on nous dit qu'il a fait, si on pense qu'en mettant notre foi en lui, son esprit est en nous, si les gens qui nous disent qu'ils l'ont vu ont dit vrai, eh bien, on se dit, c'est absolument merveilleux. Et on n'a plus qu'à tester que c'est un peu vrai et tout ça. Enfin, voilà, on peut le tester dans la vie de tous les jours. Et on peut se dire, oui, je mets ma foi en cette promesse-là, même si je vois pas tout, même si j'ai appréhendé peut-être le millième ou le dix millième de ce qu'on m'a promis. Mais je mets ma foi en cette promesse-là. La deuxième chose que la foi pousse à faire, c'est faire confiance à la voix de Dieu, et non à des signaux visibles, non dans les théophanies. La parole de Dieu, quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu dit, quand nous disons ça à propos de la Bible, c'est ce que Dieu nous promet, c'est ce qu'il affirme, et la foi nous pousse à croire en cela, à ne pas mettre de doute à cela. Pas parce qu'on a des preuves que c'est vrai, mais parce que si Dieu l'a dit, c'est vrai. C'est très très simple. Si celui qui est la vérité a dit un truc, c'est la vérité. Il n'y a pas à discuter, oui, mais peut-être que non. Hein. Non, si c'est lui qui l'a dit, c'est vrai. Si c'est pas lui qui l'a dit, on peut mettre des doutes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est lui qui l'a dit, c'est vrai. Donc, même si vous avez 45 000 signaux qui vous prouve le contraire de ce que dit la parole de Dieu, les 45 000 signaux se trompent. Je suis désolé, c'est la parole de Dieu qui prévaut, parce que c'est elle qui est vraie. Troisième chose que la foi nous pousse à faire, c'est à être conscient qu'on est déjà dans le monde d'après, dans celui qui est éternel. C'est un peu comme si on était conscient de faire partie du club gagnant de la Coupe du Monde, avant même que la Coupe du Monde ait commencé, ou en tout cas dans les tours préliminaires. On se dit, de toute façon, on va gagner. On n'a pas l'air, on est un peu en train de foirer les tours préliminaires, ça se passe pas très très bien, en fait. On a l'impression que, d'ailleurs, ça fait espérer dans le retour de Jésus, mais on se dit, non, c'est bon, on est déjà dans le monde d'après, on est dans le bon camp, on est dans le camp des gagnants, on est dans le camp de ceux qui sont dans le vrai, même si ça se voit pas tout de suite. Et on est heureux avec cette promesse. Alors, cette thématique hein, des épreuves, persécutions, du bonheur actuel d'être chrétien malgré la persécution et de la gloire à venir, ce sont des thématiques qui sont assez présentes dans la Bible. Et donc ça, c'est le point intertextualité hein, qui veut dire, voyons dans beaucoup de textes bibliques ce qui nous parle de cela. Alors bien sûr, Marion, vous êtes déjà fait beaucoup voyager dans la Bible, donc je ne vais pas pousser le bouchon trop loin. Mais j'aimerais quand même citer quelques textes. On ne va peut-être pas forcément tous les lire, mais on va les raconter. Parce que des fois, il y en a qui sont longs, qui nous parlent justement d'épreuves, de bonheur et de gloire à venir. Un texte qui est même cité dans notre passage, au dernier verset, le fait que Dieu est un Dieu dévorant, est un feu dévorant, c'est un texte qui se trouve dans le Deutéronome. Deutéronome, les chapitres 8 et 9, par exemple, c'est un exemple. Dieu dit aux Hébreux que finalement, les 40 ans dans le désert, c'était vachement bien. C'était vachement bien. Ils sont sur le point de rentrer dans le pays promis, et Dieu leur dit, bah, vous allez acquérir cette terre, la terre promise, mais finalement, le désert, c'était vraiment bien. Pourquoi est-ce que c'était vraiment bien? Parce que vous dépendiez totalement de moi. Vous dépendiez totalement de moi et je vous ai rendu heureux. Vos sandales ne se sont pas usées, votre tunique ne s'est pas usée. J'ai pris soin de vous. Par contre, maintenant que vous allez vous installer en terre promise, c'est là le danger. Parce que là, vous allez être tenté de vous détourner de moi. Le désert, l'épreuve, hein, l'épreuve, est souvent vue dans la Bible comme quelque chose de plutôt bien. Parce qu'on est totalement dépendant de Dieu. On l'écoute. Ensuite, alors ça c'est... Je vais passer vite, hein, parce qu'il me reste que 10 minutes. Donc j'ai choisi juste un passage dans l'Ancien Testament. Ensuite, après, vous avez les Béatitudes, hein, qui nous parlent quand même, où Jésus... Matthieu 5, hein, les Béatitudes, où Jésus dit heureux, et après le heureux, il y a des trucs négatifs. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils sont heureux? Parce que Dieu donne une contrepartie. Vous relirez les Béatitudes, les quatre premières, en tout cas, à chaque fois, il y a une contrepartie de la part de Dieu. Le fait de souffrir à cause de sa foi en Jésus, ça donne droit à des contreparties de la part de Dieu, et du coup, on peut être heureux, malgré les choses négatives. Ensuite, je le fais par ordre d'apparition dans la Bible, hein, 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18 où Paul, je vais quand même le lire parce que je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est tellement beau. Écoutez-le, hein. Enfin, en tout cas 2 Corinthiens 4 verset 16, ces trois versets. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Je trouve ce passage absolument merveilleux. Il dit pas mal de... Il y a beaucoup d'analogies avec notre passage aux Hébreux, mais vraiment, comparer les détresses actuelles au poids insurpassable de gloire qui nous attend, eh bien, c'est remettre les choses dans une bonne perspective. Et il ne faut jamais oublier cette perspective, sinon on est vraiment tenté de quitter l'Église. Ensuite, voilà, on a d'autres passages dans Philippiens 3, dans 1 Pierre 3, qui nous parlent aussi de ce genre de choses. Mais je n'ai pas le temps de tous les lire. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est cette même idée de regarder plus loin que la réalité présente. Alors vient maintenant le moment application, avec cette question que je pose pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes persécutés? Est-ce que nous sommes persécutés? Faites bien attention avant de dire oui. J'ai vu sur Facebook toute la semaine, même depuis 2 semaines, des appels à la prière pour les chrétiens kényans, qui, eux, sont réellement persécutés. Et c'est intéressant, à chaque fois qu'on me parle de prier pour des chrétiens persécutés dans le monde, je ne sais pas votre réflexe à vous, mais moi, avant de prier, j'ai un énorme sentiment de honte personnelle. On a un collègue qui s'appelle Jamil qui s'occupe des GBU au Maghreb et au Moyen-Orient. Et à chaque fois qu'il raconte des histoires de comment vivent les GBU là-bas, moi, la première chose que je me dis, je ne peux pas dire ce que je me dis, mais je m'insulte. Je m'insulte. Parce que voilà, on se rend compte, quand on nous raconte ce que vivent les chrétiens réellement persécutés, que d'une part, nous n'avons pas le droit, nous, chrétiens en France, de dire qu'on est persécuté, parce que aux dernières nouvelles, on risque pas une balle dans la tête, ni de se faire couper la tête, ni de se faire écraser la tête. Enfin bref, on risque rien, on risque rien. Et non seulement on risque rien, mais en plus, on peut vraiment tout risquer finalement, sans risquer un seul cheveu de notre tête. Et donc vraiment, on peut se dire, nous, on n'est vraiment pas persécutés. On n'est vraiment pas persécutés. C'est que dalle ce qu'on vit. Mais en plus de ça, on peut se dire, nous vivons dans une situation hyper confortable. Et elle est tellement confortable, notre situation, c'est que quand on lit ce passage dans Hébreux ou quand on lit l'épître aux Hébreux, eh bien, on s'identifie très très bien à ces gens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire, mais finalement, j'en ai marre de ne pas être comme tout le monde. J'en ai marre que cette foi en Jésus me fasse passer pour un extraterrestre. J'en ai marre de ne pas faire les choses comme tout le monde, de ne pas prendre du plaisir comme tout le monde. Peut-être même certains d'entre vous ont dit, mais la foi en Jésus, c'est trop dur. C'est trop dur. Et qui ont été tentés de tout envoyer balader. Parce que, voilà, des fois, c'est plus facile d'emprunter certains raccourcis. Interdits par le Seigneur, mais agréable dans un premier temps. Et je pense que les Hébreux de l'Épître aux Hébreux, eux, vraiment risquaient leur vie, en tout cas, étaient rejetés complètement. Nous, c'est juste quelques petits désagréments, quoi, souvent. Et ça pointe vraiment notre situation hyper confortable et notre culpabilité de pas mieux utiliser notre temps, ne pas mieux utiliser notre énergie dans notre contexte qui est plutôt un contexte favorable. Et c'est un véritable problème, notre matérialisme chrétien. C'est-à-dire que du coup, nous ne regardons pas le monde d'après. Nous sommes tellement contents avec le monde actuel. On arrive à se satisfaire de beaucoup de choses. On n'est pas du tout à se dire « Ah là là, vivement que Jésus arrive !» Non. En France, en Occident, Jésus peut revenir le plus tard qu'il veut, on est très très bien. On a un bon lit, on a un iPhone, on a un MacBook. On souffre de pas grand chose. Et quand on souffre d'un tout petit truc, on a vraiment envie que, peut-être un petit peu, que Jésus revienne, mais parce qu'on souffre d'un tout petit truc, quoi. Oh, je me suis fait piquer par un bourdon, j'espère que Jésus va revenir bientôt. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. On est assez ridicule, en fait, finalement, dans notre manière de voir les épreuves, notre manière d'être attaché à ce monde-là qui nous plaît tant, finalement. Et je pense qu'il faut reconnaître que nous sommes un petit peu junkies à ce monde. Parce que finalement, nous ne sommes pas persécutés. Du coup, notre foi, elle est toute petite. Souvent. Donc c'est le moment d'autoflagellation, hein, vous avez remarqué. Mais c'est bien de se faire ce moment d'autoflagellation parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Le deuxième point qui est rattaché au premier point, hein, c'est que les raisons qui font que nous nous plaignons de notre situation en tant que chrétiens, c'est que nous voulons tout tout de suite. Nous sommes dans l'ère de l'immédiateté, dans l'ère où en fait on commande des trucs par internet et ça nous arrive très très vite. On exige des autres hein, aussi qu'ils ne satisfassent nos besoins, qu'ils soient fidèles avec nous, qu'ils soient très très bien. On se sert des personnes et des objets pour qu'elles nous rendent service. Voilà, on est un petit peu les rois du monde finalement, le roi de notre petit monde, les rois de notre petit monde. Et il faut là encore relire cette épître aux Hébreux qui nous dit de patienter. Donc je vous rappelle, hein, Hébreux 11 hein, nous parle des losers de la foi, c'est-à-dire des gens qui ont eu beaucoup de foi, mais qui n'ont pas beaucoup vu de la récolte, hein, de récolte à leur foi, qui n'ont pas vu beaucoup d'accomplissement à leur foi. C'est-à-dire le fait de vivre dans une situation où on est frustré. Et en fait, la Bible fait pas mal l'éloge hein, de la promesse, du fait de vivre en ayant des frustrations, parce que du coup, on espère dans le Seigneur. Et nous, on a plutôt tendance à vouloir espérer les choses. Allez, on est en patience, ou 15 jours, hein, un mois. Allez, oh. Hey, Seigneur, tu te dépêches hein, maintenant. On lui dit pas comme ça. Hein. Mais, oh Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais vraiment... Alors, vous pouvez rajouter tout ce dont vous avez besoin, ou ce dont vous croyez avoir besoin. Tout de suite, très vite. Mais souvent, on est très pressé. Et souvent, on émet des doutes hein, sur la toute-puissance de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, parce qu'il ne nous donne pas tout de suite. Alors qu'au final, nous devrions surtout mettre notre espérance, et même, j'ai envie de dire, fantasmer sur le monde à venir, et pas sur le monde actuel. Le dernier point, qui, enfin, de toute façon, il n'y a jamais de point positif, donc c'est que de l'autoflagellation. Hein, le dernier point, c'est le fait d'espérer un plan B. Espérer un plan B. Nous avons souvent tendance à nous dire, bon, Dieu prévoit des choses super pour moi, mais j'ai pas trop envie d'attendre, donc... On va dire que je vais aller un peu plus vite que ce qu'il pourrait me donner plus tard. Donc, je vais prendre tout de suite un truc moins bien que ce qu'il pourrait me donner plus tard. Et puis, bah, j'imagine qu'il va organiser un plan B hein, pour arranger la situation. Hein. Voilà, puisque c'est mon père qui m'aime, tout ça. Je vais peut-être pouvoir tenter deux, trois trucs. Et puis, il va faire son possible pour me rattraper. C'est son métier, finalement, à Dieu, de me rattraper mes bêtises. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, sauf que Dieu n'est pas notre pote. Dieu est un feu dévorant. Dieu est le Dieu trois fois saint. C'est celui qui a effrayé Moïse, qui n'était pas le plus impie d'entre nous. Faisons vraiment attention de la manière dont nous l'écoutons, la manière dont nous lui obéissons, parce qu'il n'est pas notre pote. C'est vraiment... le Dieu auquel nous devons faire allégeance, c'est le Dieu devant qui nous devons nous prosterner, nous devons lui obéir. Paul va jusqu'à dire que nous sommes ses esclaves. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché, il nous a rachetés, et maintenant nous sommes ses esclaves, dans le sens fort du terme. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, c'est lui qui décide ce que nous devons faire, ce que nous devons penser. Qui nous devons être par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous refaçonne. Donc il n'y a pas de plan B, plan C. Il y a un plan A, il faut y obéir. Si on n'y obéit pas, il n'y a pas de plan B. En fait, ça s'appelle de la désobéissance. Et nous sommes pécheurs, nous sommes coupables de ne pas rentrer dans la promesse tout de suite. C'est aujourd'hui le jour du salut. Donc vivez-le maintenant, si vous voulez être heureux, malgré toutes les situations que vous pouvez traverser, hein, les bonnes comme les mauvaises, mais entrer tout de suite dans ce royaume inébranlable, dans cette Jérusalem céleste, c'est maintenant. Voilà. Hop là, je viens d'atteindre les trois quarts d'heure. Alors pour conclure, l'Église, du temps des Hébreux, c'était un fardeau, vraiment un vrai fardeau, parce que la foi en Jésus coûtait. Aujourd'hui, je ne sais pas tellement comment répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un fardeau pour nous? En tout cas, notre foi en Jésus ne nous appelle pas à la persécution, ne nous appelle pas à être persécutés. En tout cas, l'Église, en tant que communauté qui adore Jésus, le Fils de Dieu, c'est un véritable cadeau, ça c'est sûr, parce que c'est une promesse absolument merveilleuse. C'est un endroit où nous pouvons dire, nous pouvons confesser, nous pouvons nous le rappeler les uns aux autres. Et vraiment, je vous rappelle les nombreuses exhortations dans les épîtres à s'encourager les uns les autres, à se redire les uns aux autres. Jésus ressuscité, c'est super, vas-y, continue dans la foi, c'est génial, c'est vraiment bien d'être ensemble en tant que frères et sœurs, on est si différents, mais en même temps, on vit les mêmes choses, on est transformés par le Saint-Esprit, Jésus va revenir, se rappeler ce genre de choses ensemble, c'est vraiment merveilleux, c'est un cadeau l'Église. C'est un cadeau l'Église parce qu'on se rappelle de ce qui est réellement vrai. Et quand on n'est pas dans l'Église, on nous rappelle une réalité qui est ultra triste, le péché, finalement. Il y a des guerres, il y a des gens complètement cinglés, il y a la crise, l'avenir sera sombre. Si vous discutez, si vous avez des amis ou une famille non chrétienne, vous avez droit à des discussions sombres, superficielles, stupides parfois. Dans l'Église, normalement ça ne va pas être ça. Mais l'Église est faite pour que nos discussions soient tournées vers la réalité qui subsistera éternellement. Jésus, son œuvre. Et donc, rentrez dans cette réalité et l'Église sera un cadeau pour vous. Merci de votre attention.